Les évolutionnistes qui essayent d'expliquer notre univers comme étant le résultat de phénomènes naturels disent aussi que la lutte pour la vie et la survivance du plus apte sont un mal nécessaire. En réalité, le mal a un nom propre, Satan, et son modus operandi est « la loi du plus fort est toujours la meilleure ». Je continue à lire dans le chapitre 2 de la seconde épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. « Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. » Versets 7 et 8. Le mot pour « mystérieuse » décrit quelque chose qui est resté secret. Par exemple, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la révélation d'un mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifesté. Fin de citation. Le mal sous toutes ses formes est présent dans le monde depuis que nos premiers parents ont désobéi au Créateur. Dans une parabole, Jésus a décrit la situation actuelle du monde selon la perspective spirituelle. Il a dit « Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. » Fin de citation. La bonne nouvelle et l'esprit de rébellion contre le Christ croissent ensemble. Cependant, bien que l'esprit d'iniquité soit déjà répandu, il demeure toujours un mystère dans la mesure où il ne s'est pas encore manifesté dans toute sa plénitude. Le péché et la révolte contre Dieu sont encore limités, mais lorsque celui qui le retient sera écarté, l'homme de la révolte, littéralement celui qui est sans loi, prendra le devant de la scène et aura la voie libre. L'Antéchrist, puisque c'est là son nom, mettra le comble à la rébellion de l'homme en commettant le blasphème suprême, en usurpant la place que le Père a réservée à son Fils et se proclamera lui-même Dieu. De plus, selon un passage du livre de l'Apocalypse, le monde subira une arrivée massive de démons. Celui qui le retient est un pronom masculin. Il s'agit du Saint-Esprit que Jésus avait promis à ses disciples d'envoyer une fois que lui serait retourné dans les cieux. Or, en parlant du Saint-Esprit, le Seigneur a utilisé un pronom masculin comme ici, alors qu'en grec, le mot « esprit » est neutre. Comme cette subtilité grammaticale ne peut pas être rendue en français, j'ai dû l'expliquer. Sur terre, seul le Saint-Esprit a la puissance de contenir le mal et le péché. Jésus a dit du Saint-Esprit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Après l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit sera toujours présent sur terre, mais sa mission sera différente et son action limitée. Cependant, il continuera à restreindre la puissance du mal jusqu'au milieu des 7 années de tribulation. À partir de là, Dieu permettra aux enfers de se déchaîner au sens littéral et figuré. Ce sera un peu comme quand un barrage cède et qu'une immense masse d'eau se jette subitement dans la rivière qui sort subitement de son lit et crée une inondation dévastatrice. Une fois le Saint-Esprit écarté de son chemin, le diable contrôlera l'Antéchrist qui accomplira toute sa volonté de la même manière que Jésus a fait celle de son Père. Cet homme de la révolte sera très intelligent et le plus charismatique des leaders que le monde a jamais connu. Jusqu'à présent, Satan entretient un esprit de rébellion contre Jésus-Christ, mais il est frustré parce que le Saint-Esprit le tient au bout d'une laisse qui limite l'étendue du mal qu'il peut faire. Mais au moment choisi par Dieu, le Saint-Esprit lâchera le diable qui donnera alors libre cours à sa haine et à sa méchanceté, ce qui sera aussi un châtiment divin dirigé contre l'humanité. Les jugements de Dieu commenceront au début des 7 années de tribulation, mais seront beaucoup plus sévères à partir du milieu de cette période, une fois que la puissance du mal ne sera plus contenue. Je continue notre texte. Le Seigneur Jésus mettra fin à l'homme de la révolte par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance par la manifestation de sa venue. Verset 8. Ce dictateur sera la marionnette de Satan et nul ne pourra lui résister jusqu'au moment de sa fin décrétée par Dieu. À l'apogée de son règne, alors qu'il semblera invincible, de manière inattendue, le Seigneur y mettra soudainement fin et anéantira son empire. L'expression « le souffle de sa bouche » est tirée d'une prophétie où il est dit que du souffle de sa bouche, le Messie abattra le méchant. Il suffit à Dieu de penser, de vouloir, et la chose existe. Quand il a dit « que la lumière soit », la lumière fut. Or, Jésus est la parole vivante de Dieu. Le texte dit que l'Antéchrist sera anéanti par l'épiphanie de la parousie du Christ, c'est-à-dire la manifestation de sa venue. Quand Jésus est né à Bethléem, c'était sa première épiphanie. Quand il reviendra, sera sa seconde épiphanie. Mais cette fois-ci, il établira son royaume sur terre avec force et fracas. Dans un certain sens, on peut considérer la première et la seconde épiphanie de Jésus comme ayant chacune deux phases. Il est né et ensuite, vers l'âge de 30 ans, a exercé un ministère. À son retour, il enlèvera d'abord son Église, puis établira son règne 2000 ans. Je continue notre texte. L'apparition de cet homme se fera en accord avec l'énergie de Satan, avec toutes sortes d'actes puissants, de signes et de prodiges trompeurs. Verset 9. Le mot « énergie » décrit habituellement l'action de Dieu, mais ici, c'est celle du diable. L'Antéchrist manifestera une puissance surnaturelle qui émerveillera les masses qui se soumettront à lui, croyant qu'il est Dieu. Selon le livre de l'Apocalypse, il sera victime d'un attentat qui lui coûtera la vie, mais il s'en remettra miraculeusement. Il tirera sa puissance de Satan. Or, on sait que le diable peut non seulement contrôler les hommes méchants, mais aussi le vent et la mer. La tempête sur le lac de Galilée qui faillit submerger les disciples et celle dans laquelle les enfants de Job périrent étaient toutes deux d'origine démoniaque. L'Antéchrist saura aussi séduire les religieux, les scientifiques, les politiciens et le monde des affaires, bien entendu. Je continue notre texte. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Verset 10. Toutes les actions d'Antéchrist auront pour but de tromper le monde en conduisant les gens à tirer des conclusions fausses sur son identité. Il sera le parfait imitateur de Satan, le père du mensonge. Les incrédules rejettent l'enseignement des Écritures et la personne du Christ. Leur aversion pour la vérité n'est pas tant intellectuelle que morale. Mais ils ont fait un mauvais choix qui les rend crédules, prêts à croire n'importe qui et n'importe quoi. Et ils accepteront sans sourciller les mensonges de l'Antéchrist et du faux prophète. En fait, ils seront une proie facile parce que l'homme naturel, non régénéré, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Fin de citation. Dans le monde entier, les gens se diront les uns aux autres « Nous avons enfin le chef qu'il nous faut, regardez ce qu'il peut faire, c'est lui qui va établir le royaume de Dieu sur terre. » Jésus a dit « De faux Christs surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. » Fin de citation. Seuls ceux qui sont enracinés dans la vérité de la parole de Dieu sauront reconnaître les traits de Satan derrière ceux de l'Antéchrist. Je continue le texte. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Versets 11 et 12. Dieu va condamner les incroyants à croire que le mal est bien et les mensonges sont vrais. Ils devront subir les conséquences d'avoir rejeté la personne du Christ. L'histoire du Pharaon qui a refusé de libérer les Hébreux qu'il tenait esclaves rappelle que dans sa justice, l'Éternel aveugle ceux qui persistent à refuser la vérité. Cinq fois, ce qui correspond aux cinq premières plaies d'Égypte, Dieu a donné au Pharaon l'occasion de se soumettre, mais chaque fois, il a refusé de courber les chines. Le Pharaon ayant alors atteint un point de non-retour, les dés étaient jetés. L'Éternel a endurci son cœur, donnant cinq fois de suite un tour de vis supplémentaire, ce qui a aussi déclenché les cinq plaies suivantes. Bien plus tard, l'Éternel a également châtié son peuple en lui envoyant un prophète qui avait pour tâche d'annoncer un message de salut que les Israélites ne pouvaient pas comprendre parce que Dieu avait endurci leur cœur. Le texte dit « Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. » Fin de citation. Si Jésus s'exprimait en parabole, c'était d'une part pour révéler des vérités spirituelles à ceux qui croyaient en lui et d'autre part pour les cacher aux incrédules. Aujourd'hui, ceux qui ont l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui la refusent se pendent eux-mêmes. On les dit ouverts d'esprit, une qualité de nos jours très prisée, mais en réalité, c'est aux sectes, aux philosophies orientales, à tout et à n'importe quoi qui sont réceptifs. Savez-vous qu'il existe des adorateurs d'oignons, des adorateurs de serpents, et j'en passe, et des meilleurs? En 1986, les membres d'une secte se sont suicidés parce qu'ils croyaient qu'en ôtant leur vie, ils pourraient enfourcher la comète Halley. Celui qui rejette la vérité de la parole de Dieu se condamne à croire au mensonge et gobera des théories invraisemblables. Comment un commando suicide peut-il croire qu'en se faisant sauter et en tuant un maximum de personnes, il recevra les félicitations de son créateur? La seule explication plausible est qu'il existe une puissance surnaturelle trompeuse derrière ces aberrations. Dieu utilisera l'Antéchrist et Satan qui est derrière lui pour punir le monde. Ce jugement a son parallèle dans l'Ancien Testament. Un prophète vint voir le roi pervers Achab et lui a dit « J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui. » L'Éternel demanda « Qui trompera Achab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galaad et qu'il tombe sur le champ de bataille ?» Finalement, un esprit s'avança devant l'Éternel et dit « Moi, je le tromperai. » L'Éternel lui demanda « Et comment t'y prendras-tu ? J'irai inspirer des mensonges à tous ces prophètes. » Fin de citation. À la fin des temps, Satan conduira le monde entier à croire que l'Antéchrist est Dieu et digne d'adoration. Je lis un passage. « Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. » Fin de citation. Les incroyants seront pris dans ce piège parce qu'ils n'auront pas cru à la vérité et auront pris plaisir au mal. Dieu abandonne les hommes rebelles aux conséquences de leurs choix. Je continue notre texte. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a sanctifiés et par le moyen de la foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncé. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 13 et 14. Paul garde à l'esprit que ses chers frères, les Thessaloniciens, sont apeurés à cause de leur situation tragique. Pour les réconforter, il va expliquer à grands traits mais clairement la doctrine du salut. En quelques mots, l'apôtre emmène le lecteur d'un bout à l'autre des confins du plan rédempteur de Dieu afin qu'il soit assuré de sa sécurité en Jésus-Christ. En effet, le croyant qui n'est pas sûr d'avoir la vie éternelle ne peut guère envisager l'avenir et le retour du Seigneur avec sérénité. Ailleurs, Paul écrit « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. » Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Fin de citation. Dieu a souverainement choisi qui seraient les élus, pas seulement avant qu'ils ne naissent, mais dans l'éternité passée, avant que lui ne crée le monde. Le choix de Dieu est irrévocable et au dire de Jésus, il est absolument impossible qu'un seul des élus puisse se perdre en route. Je lis un passage. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Fin de citation. C'est sur la base de son amour, que personne ne mérite, que Dieu a décidé qui seraient les élus. Je lis un passage. « C'est le Seigneur qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. » Fin de citation. Cependant, quiconque veut peut venir à Jésus-Christ. Lui-même a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. » Et l'apôtre Jean écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu tend la perche à tous les hommes et son offre est sincère. Un jour, on m'a présenté la bonne nouvelle et j'y ai réfléchi. Puis, j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ, mais personne ne m'y a forcé. C'était un libre choix. Bien plus tard, j'ai découvert que Dieu m'avait choisi d'avance. Mais les incrédules ne peuvent pas comprendre les vérités spirituelles. Après le choix souverain de Dieu dans l'éternité passée, vient le salut présent. Paul déclare « Vous avez été sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a sanctifié et par le moyen de la foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelés par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. » Les Thessaloniciens ont reçu l'appel du Saint-Esprit auquel ils ont répondu en acceptant la parole de Dieu comme la vérité. Quand ils ont cru en Jésus, ils ont été placés en Christ, ce qui est leur nouvelle position. Le salut qui a été décrété dans le passé et actualisé dans le présent conduit inéluctablement au but final du plan rédempteur. Paul déclare « Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » La sécurité du croyant dépend de la grâce de Dieu qui repose sur son amour, de son choix souverain, de son appel et de la transformation opérée par le Saint-Esprit de celui qui croit. Puis, à l'enlèvement de l'Église, le croyant reçoit un corps glorifié. Alors s'accompliront les paroles de l'apôtre Jean quand il a écrit « Lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Je continue notre texte. « Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. » Verset 15. Paul désirait que les Thessaloniciens restent attachés à l'enseignement qu'ils avaient reçu, d'abord oralement et ensuite par lettres, parce que c'était la parole de Dieu. Depuis toujours, les croyants ont la responsabilité de garder la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Je finis le chapitre 2. Lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père qui nous a aimés, et qui par grâce nous a donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance, qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Versets 16 et 17. En grec, le pronom « lui-même » est en tête de la phrase afin de le mettre en valeur. D'autre part, la construction grammaticale est telle que ce pronom se rapporte à la fois à « notre Seigneur Jésus-Christ » et « Dieu notre Père ». Ma phrase est bancale parce que ses particularités sont difficiles à rendre en français, mais elle montre bien que pour Paul, Jésus et le Père sont un et égaux. Comme il le fait dans toutes ses lettres, Paul termine par une bénédiction. Cependant, comme il reste encore un chapitre à couvrir, ce n'en est pas vraiment une. Il conclut son discours en rappelant à ses lecteurs que Dieu, Père et Fils, les a aimés depuis l'éternité, ce qu'il a prouvé en leur accordant par pure grâce une espérance éternelle qui est la source de leur réconfort. En second lieu, l'apôtre demande à Dieu d'accorder aux Thessaloniciens le courage et la force nécessaires de se comporter d'une manière digne de leur appel, c'est-à-dire de demeurer fidèle à Dieu et grandir dans la foi malgré les persécutions qu'ils enduraient. En effet, comme aucun croyant n'est capable de lui-même d'atteindre la maturité spirituelle, il a besoin d'un gros coup de pouce surnaturel, c'est-à-dire de l'intervention du Saint-Esprit dans sa vie. Dans d'autres écrits, Paul souligne ces deux aspects, humain et divin, de la conduite du croyant quand il écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et encore, « Je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. » Fin de citation. La vie chrétienne est donc un travail d'équipe. Je suis responsable devant Dieu de mon comportement, mais c'est lui qui œuvre en moi.